Handicap aujourd'hui. Une émission proposée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.
Et nous voilà de retour dans votre émission Le Handicap aujourd'hui, deuxième partie de cette émission qui a pour thématique en ce mardi, eh bien, travail, éducation, financement, trajet, des obstacles au quotidien. Avec nous autour de la table, toujours en compagnie de Patrice Hasbrouck, vice-président de l'association Aidon Agathe et papa d'Agathe qui est atteinte d'une anomalie chromosomique. Nous avons également Dominique Charlet, président de l'association Un Autre Regard, Dany Gendruche, présidente de l'association Azure et intervenante psycho-éducative, et également Émilie Glabien qui est maman de Noé, un petit enfant âgé de 6 ans et atteint d'autisme. Nous parlions justement des thérapies autistiques il y a un instant. On parlait notamment de la méthode ABA, de la thérapie pardon, ABA, qui contribue à travailler sur le comportement de l'enfant et qui, on le disait aussi, en compagnie d'Émilie, permet chez certains enfants de nets progrès. Vous preniez cet exemple, Émilie, de votre enfant qui a appris aussi à s'amuser au parc, à adapter certains comportements qui étaient considérés, entre guillemets, comme inadaptés en société. Et on le disait un peu plus tôt dans cette émission, cette thérapie a un coût qu'il est difficile aussi de quantifier parce qu'il dépend vraiment de chaque enfant et de chacun des besoins des enfants qui sont concernés par l'autisme. Vous, comment est-ce que vous faites face aujourd'hui, Émilie, au coût de cette thérapie?
Alors, aujourd'hui, je peux faire face parce que la MDPH a débloqué le dossier de Noé et donc m'alloue un certain complément, comment dire, à hauteur des devis que j'ai envoyés. Cette somme qu'on m'a allouée, je l'ai dit tout à l'heure, elle correspond à peine à une journée d'hospitalisation. Donc je perçois moins de 800 €, comment dire, ce qui est, ma foi, quand même une somme relativement conséquente. Hein, on va pas se mentir, 800 € aujourd'hui, c'est pas neutre. Sauf que le besoin, ça court pour ma part et pour les autres mamans. Mais je n'ai jamais entendu aucune maman d'enfant autiste me dire, puisque je ne peux pas parler pour les autres, donc je parle pour l'autisme, mais me dire que c'était largement suffisant et que c'était formidable et qu'on s'en sortait. Les parents, ils vendent leur propre denier. Je prends le cas de monsieur. Je crois qu'arrivé un moment, on a tellement envie de porter haut nos enfants qu'on ne se pose pas la question. L'argent, on le trouve. On n'a pas le choix. C'est important pour l'avenir de Noé. Après nous, nous, notre objectif en tant que parents pour Noé, c'est d'avoir un enfant, premièrement, heureux. C'est tout ce que je veux. Mais aussi un enfant autonome. Parce que je ne serai pas éternelle, son père non plus. Et que je vais faire le maximum aujourd'hui pour lui rendre la vie la plus aisée, la plus heureuse possible, pour l'armer, comme tout parent fait avec ses enfants, en l'armant pour l'avenir. Après, pour parler financièrement, tant que mon dossier MDPH n'était pas débloqué, Daniel a travaillé bénévolement. C'est-à-dire qu'il y avait un tel besoin de prise en charge en fait chez Noé qu'elle a pris en charge Noé et sans contrepartie financière, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible. Ça mettait en péril tout ce que j'avais bâti avec mon mari, notre prémaison. J'ai pas que Noé. Je suis maman d'un grand qui va à la fac et je peux difficilement faire une croix sur ses projets d'avenir également. Donc Noé, c'est une chose, mais il y a aussi toute notre famille. Et j'ai pas bâti ma famille autour de l'autisme. L'autisme est arrivé dans ma famille. Mais nos projets... C'est mon fer de lance à moi parce que je suis sa mère, mais je peux difficilement dire à mon aîné que non, je prendrai pas en charge ses études supérieures parce que son frère j'ai les moyens de le dire. Dans certaines familles, il y a pas de moyens financiers, il y a pas de solution, il y a de l'isolement, et je peux même pas m'imaginer ce que ça peut être de savoir qu'il y a des solutions qu'on peut pas se payer. Et je préfère même pas m'imaginer dans quel état d'esprit on doit être quand on peut pas faire face financièrement, qu'on connaît en tant que parent le besoin de son enfant, qu'on a le coût, la facture en face et qu'on doive se dire qu'on fait une croix dessus parce que financièrement on n'a pas les moyens, on les aura jamais. Ça, c'est terrible quand même.
Une réaction peut-être, Patrice Hasbrouck?
Effectivement, c'est nous notre premier combat, c'est-à-dire c'est effectivement chaque jour se dire est-ce que demain on pourra continuer à financer les soins dont Agathe a besoin. C'est une question qu'on se pose tout le temps. Mon épouse, je pense que ça la rend effectivement malade de savoir que Agathe grandit et parfois quand les enfants grandissent, on s'y intéresse moins. Agathe a 17 ans, on est toujours plus... plus portée vers les enfants un peu plus jeunes, mais Agathe a besoin toujours de bouger, elle a besoin de s'en sentir bien dans son corps, et tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on lui apporte nous au quotidien, ça lui permet de mieux se sentir, de ne pas souffrir, parce que la maladie l'a fait souffrir, et c'est des gestes bêtes, hein, c'est du massage, c'est du mouvement. De toute façon, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut bouger pour se sentir mieux, c'est ce qu'on essaie d'apporter à Agathe. Et effectivement, se dire que demain, on ne puisse plus lui apporter et on n'ait plus l'argent suffisant pour l'aider, c'est terriblement angoissant
et culpabilisant,
oui, tout à fait.
Alors en tout cas, des actions sont menées, notamment par votre association. De manière générale, le handicap est porté par de nombreuses associations qui se réunissent pour mener des actions caritatives, faire des appels aux dons qui sont comme ça sollicités régulièrement. On avait aussi une autre association qu'on avait conviée, on va peut-être pour en parler avec Dominique Charlet, c'est aussi une association qui, elle, a besoin de revenus, qui a besoin, comme toutes les associations représentent autour de cette table de financement pour fonctionner, c'est l'association Autonomie, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu dès à présent, Dominique Charlet, s'il vous plaît.
Oui, alors donc l'association Autonomie qui a été créée là en septembre de cette année, c'est pour un petit garçon de Billy Berclos qui s'appelle Tom Bourgeois. L'association a été créée dans le but de faire gagner en autonomie Tom par l'achat de divers matériaux qui ne sont pas remboursés. On revient au même discours.
Hein, oui, notre quotidien.
Notre quotidien, donc, tout à fait, c'est le quotidien. Comme là, ça parle, c'est d'un terra-trainer, ça lui permet de plus travailler à la maison. Parle aussi que, enfin, ça rejoint un peu ce que a dit Patrice tout à l'heure. Ça lui permet de travailler à la maison, faire des exercices. Et après, ça sera aussi le but de l'association, c'est d'amener tout doucement vers son autonomie, parce qu'il faut penser au futur, ce que disait tout à l'heure aussi Patrice et...
Et Émilie. Et Tom est actuellement au collège, d'ailleurs, je crois.
Au collège, oui, il rentre en sixième cette année. Ouais. Donc là, l'association Autonomie va faire donc un premier loto le 11 octobre, ici, donc à l'espace Mitterrand. Le 11 novembre, pardon.
C'est pas grave.
Route, hein. Le 11 novembre, donc à l'espace Mitterrand à Billy Berclos, il sera présent aussi au marché de Noël. Il fera aussi un loto avec nous en début d'année avec l'association À Notre Regard. Voilà, donc vous pouvez les suivre sur Facebook en tapant @autom, donc avec O avec un apostrophe, Tom, apostrophe, nomique, ou après par mail aussi, vous pouvez toujours les joindre.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur cette association que nous avions conviée à cette émission, mais dont les représentants n'ont pu se libérer. On les en excuse, bien évidemment. On continue très rapidement aussi de parler de financement, et on en parlait, Jean-Philippe. La prise en charge aussi semble diminuer parfois.
Oui, alors il y a plusieurs. Alors il y a des choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, donc il faudrait d'ailleurs qu'on vérifie la véracité. Moins de remboursement au niveau des fauteuils roulants, par exemple. Chose à vérifier. Hein, donc c'est pour ça que je le mets au conditionnel. Autre mesure qui, par contre, a été adoptée récemment, c'est le remboursement des fauteuils d'occasion. Prise en charge des fauteuils d'occasion. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bon. Non, j'étais pas au courant. Par contre, la prise en charge du fauteuil roulant est toujours à la même hauteur, hein, 586 € pour avoir droit à avoir des roues. Enfin, pour essayer d'avancer un petit peu, mais c'est des fauteuils basiques. Par contre, si on s'en va vers un fauteuil vraiment adapté à la personne, si on s'en va vers un fauteuil plus léger, plus maniable, bon, les prix explosent, on arrive dans les 3, 4, 5, 6 000 euros.
Donc on est souvent dans ces prix-là, d'ailleurs.
On est souvent dans ces prix-là. Après, il y a aussi, on rejoint un peu ce qu'a dit Patrice tout à l'heure, après un peu les lobbies, on va dire, du monde paramédical, où on assomme un peu sur les prix, ou les revendeurs qui se servent bien au passage aussi. Après, à force de rencontrer des gens sur des événements, on découvre par exemple des revendeurs, je vais lui faire un peu de pub, hein, je ne sais pas si c'est bien placé, mais facteur humain qui est basé par exemple à l'Équin, tout est dit dans son nom, en fait, dans le nom d'entreprise qui s'appelle donc facteur humain. C'est-à-dire qu'au niveau des coûts d'un fauteuil roulant, on se retrouve à des choses abordables que moi personnellement je pouvais pas non plus entre guillemets m'acheter, même avec le remboursement sécu plus la mutuelle. Il arrive à pratiquer des prix qui sont nettement moins chers que les autres. Donc on arrive à avoir du matériel bien adapté à nous. Par exemple, un fauteuil roulant en location, on a souvent des trucs qui font 20 ou 22 kilos, et puis pas adapté. Lui fait des fauteuils adaptés à nous, en location, au tarif sécurité sociale, sans dépassement. Ce qui est quand même très positif, ça lui cause certains problèmes avec certains de ses confrères qui ne sont pas trop d'accord avec sa façon de fonctionner, qui est pourtant la bonne. Mais c'est une avancée, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut travailler. C'est vraiment du positif, parce que le matériel coûte cher et on en a besoin pour pouvoir avancer.
Alors, j'ai retrouvé l'information concernant cette fameuse baisse. Alors, c'est un projet, hein. C'est l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 qui vise en fait à économiser pas moins de 40 millions d'euros sur justement les frais concernant les personnes en situation de handicap. Le gouvernement veut mettre en place un nouveau référencement où seuls les fauteuils ne dépassant pas les 600 euros auraient droit à une prise en charge.
C'est fou. C'est fou parce que aujourd'hui, on est dans un système où je pense que des gens se complaisent. C'est-à-dire que on a tous eu des enfants. On achète une poussette, un filet pour mettre en dessous de la poussette. Vous l'achetez dans n'importe quelle enseigne. C'est 10 euros. Vous achetez le même fauteuil pour un fauteuil roulant. On vous le vend 100 euros. Et nous, un combat qu'on a voulu mener à peine perdu, c'est contre les sociétés qui revendent le matériel médical. C'est-à-dire que la première chose à faire, je pense qu'à un moment, que les gouvernants devaient faire, c'est jeter un œil sur les prix des matériaux vendus, parce que c'est hors de coût. Et le fait de baisser le remboursement à la prise en charge d'un fauteuil roulant, ça sera de toute façon à la charge des familles qui n'auront pas le choix d'avoir ce fauteuil roulant pour le financer. Nous, Agathe, on a un fauteuil roulant. Alors, je ne sais pas si vous voyez des coques, parce qu'Agathe a une scoliose importante. Elle a une coque. Une coque, c'est 2500 euros, entre 2000 et 2500, qui est refaite chaque année. Vous regardez la coque, ça pèse 20 kilos, c'est moche, on peut le dire. Et puis, alors qu'on pourrait, à mon avis, à 500 euros, faire la même chose, sauf que personne met le nez dans ça. Donc, on a l'impression que tout le monde se complaît de ce système financier et chacun trouve son compte, sauf nous, famille, où on est livré à ça et on n'a pas le choix, en fait.
Ça rejoint ce que vous disiez finalement, Dominique Charlet, sur les critiques qu'il peut y avoir envers cette société que vous nous évoquiez, qui s'appelle Facteur Humain. Vous nous disiez qu'il y avait des critiques de la part de personnel travaillant dans ce même secteur d'activité.
Oui, il dénote. Donc il ne va pas dans le sens purement financier, comme on peut le penser dans ce domaine-là. Parce que dans le domaine du médicament, moi je trouve ça absurde un fauteuil à 600 euros, on va mettre, j'invite Madame Buzyn à se mettre dans un fauteuil à 600 euros tous les jours. Je pense qu'on en rediscutera rapidement.
Très rapidement même.
Enfin, si elle a envie de discuter, ça c'est un autre sujet, on en revient toujours à la même chose, tant que les gens ne sont pas confrontés directement au handicap, tant que ça leur tombe pas, passez-moi le terme, sur le coin de la gueule. Ils comprendront pas. On travaille toujours avec les œillères et le profit. Essayer de faire en plus du profit sur un peu la détresse des gens, sur la maladie, sur le handicap. Moi, c'est pas mon concept et je pense pas non plus que ça soit.
Ah non, c'est glauque.
C'est comment on peut encore essayer de se faire de l'argent, des économies sur des gens qui sont quelque part en souffrance, même si le handicap c'est pas que de la souffrance. Je veux pas.
Non,
je veux pas. Mais ça.
La souffrance, elle est là quand même, parce que ce qu'on se disait en off tout à l'heure, c'est que on a toujours l'impression de quémander, de mendier, de jamais être satisfait, comment dire, de ce qu'on nous donne. Non, on peut pas. Tant qu'on n'a pas un enfant qui est bien, tant qu'on n'a pas, comment dire, une personne qui est pas assise correctement ni équipée correctement pour sortir de chez elle, il y a un minimum de confort à avoir. Et c'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de dignité. Moi, il arrive un moment, la MDPH, vous en parliez tout à l'heure, Une fois qu'on a eu la force de monter le projet de ville, le dossier, les papiers, quand ils nous ont rien perdu, quand ils nous ont, quand on n'avait pas été pas obligé de remonter le dossier trois fois, quand on a, enfin bref, on n'a même plus la force de faire appel. Hein. On fait ouf, ça dure 2 ans, puis on se dit bon allez, ça va, mais on fait une croix dans le calendrier, puis on se battra 2 ans après, comment dire, on prend les mêmes, on recommence. Mais c'est insupportable d'être dans une position d'avoir systématiquement être dans la supplication, et puis il faut encore prendre sur soi, comment dire, parce que c'est vrai qu'il faut avoir de la force au quotidien, puis il faut encore aller trouver de la force pour lever des fonds. Enfin, c'est le handicap, les enfants, c'est, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça, si j'ai découvert une force que j'avais pas, franchement.
Oui, tout à fait.
Répondez si jamais, je poserai ma question après.
Non, mais après on le fait pour nos enfants. Nous on l'a fait d'abord pour Agathe, et après on avait espoir de d'emmener avec nous dans ce combat d'autres familles qui n'avaient pas à un moment eu cette lumière et se dire qu'on pouvait changer les choses. On se rend compte finalement, effectivement, quand tout à l'heure on parlait de demande de fonds, que les gens sont plutôt volontaires et demandent que ça a aidé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent le handicap.
Oui.
C'est vrai qu'on a tendance à mettre le handicap derrière une image noire, mais c'est pas que ça. Je pense qu'on a gagné à vivre. À vivre tous ensemble, et les enfants différents nous apportent énormément. Moi, j'ai maintenant avec Agathe, on côtoie d'autres enfants et il se passe des choses qu'on voilà. On a une richesse qu'on n'avait pas avant.
Ouais, tout
à fait. Et effectivement, on a besoin de tous, et il faut pas, comme vous disiez tout à l'heure, il faut pas voir le handicap comme une image noire. Celui-là est en fauteuil, je veux pas le voir. Il porte malheur. On a eu cette image-là. Ma grand-mère m'a raconté des choses il y a très longtemps où on voulait pas voir les gens en situation de handicap. Et il faut effectivement changer le regard. C'est, si aujourd'hui nous on avait un combat, c'est celui-là, et que les gens dans la rue tendent une main, voilà. C'est, et on l'a grâce à nos associations, et nous ça nous permet effectivement de relever le défi et de se battre pour Agathe, ouais. Parce que Agathe, c'est un sourire au quotidien, c'est le soleil de la famille, j'aurais tendance à dire, puisque le soir c'est une crise de rire, c'est tout le monde rit. Et puis elle se plaint pas. C'est voilà, ils font preuve d'une force qui nous laisse juste admiratifs.
Oui,
et depuis la création de cette association, on a eu tellement d'aide, tellement de soutien que finalement on peut se dire que il faut continuer à se battre et à changer le regard, et qu'il suffit à mon avis de pas grand chose. Alors si on arrive à avoir tout le monde avec nous, je pense que nos gouvernants vont peut-être à un moment se rendre compte que les gens sont des électeurs, et qu'on va peut-être, de toute façon, c'est un peu ça quand même, hein, c'est un peu le combat, et on pourra peut-être changer les choses, même si on en a tous conscience, le combat est long et difficile.
Alors on a l'impression, à travers cet exemple de projet de loi, hein, qui n'est pour l'instant qu'un projet de loi, mais en tous les cas, voilà, ça a été dit tout à l'heure, on a l'impression que les associations doivent de plus en plus se substituer au rôle que devrait avoir l'État, en fin de compte. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Merci. Bien sûr, mais c'est exactement ça. On fait à la place de l'État. C'est ça, c'est tout à fait ça.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que nous, les thérapies qu'on a évoquées tout à l'heure, enfin, que ce soit notre association, que ce soit Autonomie, un autre regard, enfin, toutes les associations, c'est-à-dire qu'on profite des différentes manifestations pour financer ce que l'État devrait nous donner, finalement. Il y a quelques années, on allait en Pologne. Alors chacun, je pense que des gens voient la Pologne comme un pays arriéré, alors que mon épouse faisait le voyage en Pologne et était reçue dans des centres de rééducation qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire que vous aviez toutes les professions, que ce soit ortho, chiropracteur, ostéopathe, ils faisaient de l'équithérapie. Agathe était en séance où elle donnait à manger à un lama dans un couloir. En France, c'est inimaginable. Alors que je voyais des photos, il y avait de la lumière dans son regard. Et c'est des barrières que nous, on se met en France, qu'on se met nous ici. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'État se repose sur nous. C'est-à-dire que ils ont trouvé leur compte. Nous, on finance nos thérapies, et puis tout va très bien. Et puis chacun ferme les yeux et on est livré à nous-mêmes.
Alors, je voudrais aussi dire, puisqu'on parle de ça, que par rapport au TSA, mais tout le reste, hein, je pense aussi, on a toujours 40 ans de retard, hein, en France. Hein, toujours 40 ans de retard. La France, c'est pas pour rien que la France a encore récemment été épinglée par l'ONU, hein, voilà. Et puis, toujours en parlant des TSA, puisqu'on parle de d'autres pays, on faudrait peut-être prendre en exemple l'Italie, la Norvège, etc., où tous les enfants sont à l'école. Hein, il n'y a pas de voilà, ils sont tous à l'école, donc avec. Des adaptations.
Il n'y a pas de fausses statistiques, voilà. Entre guillemets.
Et ça, on en est encore loin.
Très bien.
Le handicap aujourd'hui.
Alors, nouveau volet, nouvelle thématique abordée dans cette émission, celle de la vie professionnelle dans le parcours d'une personne en situation de handicap. La vie professionnelle fait, elle aussi, partie des obstacles au quotidien. Alors, Dominique Charlet, président de l'association À Notre Regard, vous êtes vous-même salarié en situation de handicap et tant de par votre parcours personnel qu'à travers le prisme de votre association, vous avez sans doute beaucoup à dire sur le sujet. Quelques mots d'abord très rapidement pour présenter l'objet de l'association À Notre Regard.
Alors, notre association, elle a pour but de favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Elle est ouverte aux personnes valides et non valides. C'est vraiment le but de créer quand même un lien social entre des gens valides et non valides. Comme on dit souvent, comme je le dis souvent, je pense que tous les gens autour de la table le disent, le premier handicap ou handicap, ou la différence, c'est le regard que l'on pose dessus. C'est des fois un regard, on dit plus long que toute autre chose, un peu comme en musique avec les silences qui laissent transparaître certaines émotions. Elles sont plus ou moins faciles à appréhender. Après, l'objectif de l'association, c'est aussi de casser cette peur, casser un peu tous ces codes du handicap, de consolider un peu le lien social à travers l'humain. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc en recentrant vraiment l'humain au centre, le mettre au milieu de la société. C'est ça aussi, porter un autre regard à l'association, sur le handicap, pardon.
Alors, vous êtes salarié, je le disais, dans votre vie professionnelle, avec les gens qui vous entourent, vos collègues de travail notamment, est-ce que tout le monde a bien conscience des difficultés que peut rencontrer une personne handicapée au quotidien ?
Non. C'est un sujet, oui. Ça se rapproche par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens fonçant avec des œillères, se regardent un peu beaucoup le nombril. Donc à l'heure actuelle, les gens sont de plus en plus nombrilistes et ne s'inquiètent pas de se dire « bah oui, il est en fauteuil roulant, oui, il a un handicap, oui, il a un traitement, enfin des choses comme ça », mais de se dire qu'à côté, parfois, ça peut être compliqué pour lui, qu'il peut avoir des arrêts de travail. Pourquoi on se dit « bah oui, hier, je l'ai vu, il avait l'air de bien aller », oui, après, on peut cacher, on est des fois un peu... Peut-être on va un peu aussi nous-mêmes trop loin en tant que personne en situation de handicap. Mais ça peut être compliqué avec les collègues, oui, qui ne comprennent pas quand, par exemple, on est en arrêt de travail et qu'on va se retrouver, quand on est président d'une association, un peu sur les médias ou des choses comme ça, parce qu'on est en arrêt de travail pour une situation donnée, mais on a le droit de vivre à côté. Et ça, les gens ne savent pas l'appréhender, ne le comprennent pas. Ils font des fois des choses à la limite du supportable et... pas que à l'heure actuelle, par exemple, moi, je n'accepte pas. Mais comme je dis toujours, après, ce n'est pas par méchanceté que je vais dire ça, mais la roue tourne et souvent, la vie peut rattraper ces gens-là. Et un jour, ils comprendront peut-être ou pas. Après, comme la bêtise, comme dirait l'autre, la connerie, enfin, quand on est atteint de conneries, en règle générale, on ne le sait pas. Même souvent, même les proches ne le savent pas non plus. C'est plus les gens de l'extérieur qui s'en rendent compte. Mais après, c'est difficile
de... pathologie.
C'est la plus grave en France, oui. Ou dans le monde, c'est la connerie.
Alors, la vie professionnelle, ça démarre dès l'entretien d'embauche. Et là aussi, c'est parfois un véritable parcours du combattant, puisque les employeurs, pas toujours diplomates, ont la capacité, malheureusement, de poser des questions autour du handicap qui peuvent être très, très déstabilisantes. Et c'est un euphémisme.
Oui, ça peut être très déstabilisant, très agressif, c'est discriminatoire. Il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être quand on est dans un entretien d'embauche. Dit-il, est-ce que vous allez être capable de tenir le choc ? Est-ce que vous n'allez pas être facilement plus malade qu'un autre ? Plus facilement absent ? Est-ce que votre traitement, ça parce que j'ai eu, est-ce que votre traitement ne peut pas faire que vous ne pouvez pas prendre vos fonctions ? Après, il faut avoir une certaine répartie, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est des choses qui peuvent être blessantes et puis qui ne sont bah, c'est des propos discriminatoires. Enfin, ça n'a pas lieu d'être dans un entretien d'embauche.
Alors justement, que dit la loi à ce sujet? Est-ce qu'elle protège les personnes en situation de handicap en leur permettant, par exemple, le droit de ne pas avoir à répondre à ces questions? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une certaine liberté pour l'employeur de pouvoir poser ces questions parfois blessantes ou dégradantes?
Après, la loi, normalement, il y a une loi sur la discrimination. Après, moi, personnellement, pour moi, non, ça n'a pas lieu d'être... Il y en a qui font fi de tout ça et qui ne se gênent pas à poser les questions. Mais je pense qu'il faudrait une loi un peu plus claire par rapport à ça et protéger peut-être un peu plus les personnes en situation de handicap lors d'un entretien d'embauche. Et, nous, on nous demande en tant que salariés en situation de handicap de nous adapter. Mais l'adaptation... à partir du moment où nous, on s'est adapté, donc si c'est adapté, le handicap disparaît. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... si le poste de travail est adapté, pourquoi me considérer encore comme personne en situation de handicap? Mais c'est toujours à la personne en situation de handicap de devoir s'adapter. En face, en règle générale, c'est toujours plus compliqué. Ça prend beaucoup de temps ou les gens ne font pas l'effort.
Alors justement, certaines entreprises rechignent toujours et encore à adapter les postes de travail, comme vous le soulignez, parfois même pour des sommes dérisoires au regard du budget dont elles disposent. Et préfère au final licencier la personne en situation de handicap ou payer des amendes. Comment vous l'expliquez ça?
C'est un manque d'envie, de pas envie d'avoir de problèmes supplémentaires. Je pense que le handicap pour eux c'est un problème. Alors que bon, quand on s'adapte, il n'y a plus de problème. Mmh. Mais après, je pense que la loi n'est pas encore assez sévère avec ça. Il faudra que ça soit vraiment que ça tape plus fort au niveau des amendes et que, oui, que les gens changent aussi leur point de vue, enfin pas le point de vue, mais leur regard sur le handicap. C'est pas un frein. Enfin, le handicap n'est pas un frein, ça peut même être un moteur des fois dans un service. Hein. Ça dépend les gens. Après, il faut bousculer un peu. Moi, personnellement, je le fais. Je bouscule quand j'arrive. Enfin, quand je suis arrivé dans le service, j'ai bousculé. Mais...
C'est pas ce qui te définit en plus.
Non.
Voilà, c'est surtout ça l'idée.
Oui.
C'était en aucun cas ton handicap ou le handicap ne définit la personne ou l'être humain.
Non, c'est pas.
Quelquefois, c'est même. Alors là, je vais parler par exemple pour nos autistes Asperger. C'est même quelquefois un atout au niveau du travail. Par exemple, vous savez que vous n'allez pas dire à une personne Asperger tu peux partir avant non l'heure c'est l'heure hein, ils seront toujours à l'heure, voilà, ça c'est quand même un atout et je parle pas que de ça, il y a aussi plein de choses il faudrait peut-être plus mettre en avant justement tous ces atouts là par rapport au handicap pour le handicap invisible, c'est surtout ça. Après, pour le, là, c'est.
Après, il faut qu'ils sachent qu'on leur fait gagner de l'argent quand même.
Voilà, exactement.
Aux employeurs.
Aussi, oui, avec les réductions de cotisations,
etc. Il ne faut pas qu'ils oublient. Hein. On est un cadeau, en fait. Hein. C'est Noël tous les jours avec moi. Mais c'est vrai que, c'est des choses qu'il faut. Après, c'est. Enfin, pour revenir un peu de ce qui s'est, moi, passé il n'y a pas si longtemps, après, on est quand même défendu par les gens, parce que c'était monté très haut dans mon cas, mais il y a quand même des gens intelligents qui emploient des personnes en situation de handicap, faut quand même le souligner, qui sont là aussi pour aider et essayer de nous aider à nous intégrer. Après, j'aime pas non plus ce mot-là, moi j'ai pas besoin de vouloir m'intégrer dans un service en tant que personne handicapée, juste en tant que salarié comme tout le monde. Mmh. Après, quand j'ai des collègues intelligents... Ça se passe très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut encore beaucoup de travail. La sensibilisation doit se faire au niveau des employeurs, mais aussi au niveau des salariés. C'est aussi aux gens à s'ouvrir l'esprit, arrêter de regarder le nombril et se dire tiens.
Vous pensez par exemple qu'une formation auprès des salariés, une formation obligatoire, ça pourrait résoudre pas mal de choses?
Un formatage, peut-être des gens. Sure. Un reset sur les gens.
Bien sûr.
Je crois qu'on doit tout miser sur les générations futures, surtout.
C'est les enfants.
Les indécrottables, il faut les laisser, on ne met pas d'énergie là où, comment dire, il y a de la bêtise profonde, c'est tout. Mais les générations qui arrivent, un pays qui parle d'intégration, de normalité, enfin, c'est des gros mots, on ne devrait même pas avoir parlé. Le savoir-vivre ensemble, c'est plus un problème de société, tout ça, au fond, dans la manière dont on se regarde soi et la manière dont on regarde les autres. Et je pense qu'on devrait miser beaucoup sur les générations qui arrivent. Tu parles beaucoup des enfants, mais oui, c'est eux. Ils regardent les choses comme tu l'as dit tout à l'heure. Eux, ils ne se posent pas de questions, hein, ils n'ont pas de préjugés. Tout se passe bien. Hein. Si les parents ne font pas un foin du handicap, parce qu'ils sont influencés aussi beaucoup par... Le parent influence beaucoup, comment dire, son enfant dans ce qu'il pense, que ce soit en politique, que ce soit sur des idéologies racistes ou autres. Enfin, ouais. Si on retire tout ça, on a des générations formidables qui arrivent.
Si on retire tout ça.
Si on retire tout ça, oui. Mais il faut leur faire confiance.
On parlait un peu là du monde, un aparté, c'est un peu bête, mais un peu du monde du travail. Quand on regarde, il y a des séries là, ces derniers temps qui sont sorties avec le Good Doctor, que moi personnellement je regarde, parce que j'aime beaucoup, les Bracelets Rouges, Demain nous appartient, où on commence tout doucement...
Ouais.
Des séries, oui, aussi, où effectivement...
Après, c'est peut-être pas non plus du haut niveau. Enfin, voilà,
Personne en situation de handicap peut être...
C'est une façon d'amener un peu un regard sur le handicap.
Une visibilité
qu'on n'a pas.
Ouais.
Qu'on n'a pas. Mmh. Et ça, c'est moi, je trouve ça important de mettre une visibilité, qu'on nous voit, qu'on...
C'est vrai. Par contre, l'autisme, c'est pas que Asperger.
Oui.
On ne met en avant, comment dire, à la télé que des cas d'Asperger, parce qu'on c'est Reinemann, c'est fantastique, ils sont tous neurophysiciens, neurochirurgiens. Non, on a choisi le côté le plus sexy, télévisuellement parlant, comment dire, pour parler de l'autisme. Sauf que l'autisme, c'est pas que ça. C'est des enfants qui enfin, on peut pas résumer l'autisme qu'à ça. Mmh. Ils sont pas tous des génies, même s'ils ont des capacités fantastiques. Mais moi, ça me dérange un petit peu qu'on les regarde que sous cet angle-là, parce qu'on devrait regarder... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Dani, mais...
Ben, c'est toujours une question de sensibilisation, hein, de toute façon, peu importe le handicap. Tout à l'heure, vous parliez d'employeurs. Bon, oui, il faut absolument qu'il y ait des formations également là, parce que bon, quand on parle de handicap invisible, si l'employeur ne sait pas comment son employé fonctionne... c'est compliqué, hein. Il peut prendre ça comme étant de la mauvaise volonté, ou alors que c'est pas du tout ça. Bon, là, je parle moi des handicaps invisibles du TSA. Voilà, quelquefois, il faut juste reformuler sa question. S'ils sont pas formés, s'ils ne savent pas comment leurs employés fonctionnent, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est difficile, c'est compliqué. On peut comprendre que ce soit compliqué.
Julien ? Alors globalement, Dominique Charlet, comment changer le regard des entreprises sur le handicap ? Est-ce que vous avez des pistes à nous suggérer ?
Il y a tous les ans, là, il y a une semaine pour l'emploi. Là, je crois que c'est bientôt, d'ailleurs.
Oui, au mois de novembre, il me semble. Hein, la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui.
Bon, ce qui est bien, c'est d'en parler une semaine, mais ce qui est mieux, c'est d'en parler toute l'année. Mmh. Parce qu'on a l'impression d'être un peu oublié derrière. Mais après, c'est juste... j'aime pas non plus ces mots-là, faire de l'inclusion, d'essayer de... Déjà, ça passera par l'école. Ouais. Obligatoirement, l'école est obligatoire pour tous les enfants. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'école est obligatoire normalement pour tous les enfants. Mmh. Pour pouvoir entrer dans le monde du travail, il faut une formation. Si on ne peut pas être formé, si on ne peut pas apprendre un métier, ça pose problème pour l'emploi. Et c'est aussi après peut-être aux entreprises à faire aussi l'effort de se dire pourquoi lui, il n'aurait pas plus de capacité qu'un autre. Que ce soit un même emploi, on va prendre un valide ou une personne en situation de handicap, c'est la personne valide qui sera quasiment à 99,9% prise sur un poste. Donc il y a encore un travail à faire là-dessus, qui viennent voir dans les écoles, dans l'entreprise, juste parler aux gens, discuter avec eux. Des fois, juste en disant, si vous m'adaptez là, paf, moi je peux travailler. c'est des fois des toutes petites choses. Si on ne discute pas, si on ne met pas les... Parce qu'on a la même valeur que les autres, faut pas dévaloriser les personnes en situation de handicap. On a tous notre bagage, on a tous nos formations, et on est tous aptes au travail à partir du moment où, en face, on veut bien nous donner les moyens de travailler aussi.
Donc, donner des moyens, oser aussi,
oui.
et échanger, être dans la pédagogie toujours.
Et voir la personne, pas, il faut qu'ils arrivent à... faut vraiment désacraliser le handicap. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la personne et pas ce carénage qu'il y a autour, comme un fauteuil, comme un... je parle en l'exemple du fauteuil, mais même le handicap invisible.
Bien sûr.
Parce qu'il y a aussi, on le voit moins, mais il est quand même présent. Mais il faut réussir à aller chercher l'humain qui est là. Et,
voilà, c'est ça.
Et que c'est dans cette démarche-là qu'on arrivera à avancer et faire bouger les choses.
Il faut mettre d'abord l'humain. C'est
voilà.
Alors, je rappelle justement la date de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est du 18 au 24 novembre prochain.
Voilà, rendez-vous et évidemment pris pour cette semaine aussi de sensibilisation. Alors, dernier volet de cette émission, le handicap aujourd'hui, la question des trajets. Là aussi, l'accessibilité est un vaste sujet, pas toujours correctement maîtrisé, et c'est loin de... Et c'est bien gentil de le dire comme ça par les collectivités en termes d'urbanisme, en termes d'adaptation du mobilier urbain. On s'est intéressé aussi, par l'intermédiaire de Dominique Charlet, un exemple concret, c'est celui du parc Marcel Cabidu. Vous avez mené l'an dernier une opération pour sensibiliser à l'adaptation de ce parc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, donc ça avait pour nom Adaptons Parc 1, ça veut dire qu'il y en aura un deuxième. Donc le but, c'était de montrer, on a la chance ici d'avoir un parc, de la verdure, un plan d'eau et de quoi ça commence bien se promener quand on est valide. À partir du moment où on commence à avoir une canne ou une personne âgée, une poussette, un fauteuil roulant, là ça commence à devenir plus compliqué. Les accès sont, pas dire inexistants, mais quasiment difficiles, très difficiles. Et on a voulu donc interpeller un peu le comité de communes. On était passé par Marc Tartar, qui est adjoint au sport ici à la mairie de Billy-Berclou. On a mis ça en place le mois de juin 2019. Il y avait donc plusieurs associations. On avait fait un village avec certaines entreprises et puis aussi diverses associations, et ce qui avait permis de montrer un peu le handicap, et après aussi les possibilités qu'il y avait de pouvoir de travailler sur l'accessibilité. De là, on en s'est revu en septembre et on a eu un bilan assez positif, c'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir une somme de 15 000 euros pour commencer les premiers travaux d'accessibilité, donc qui sera au niveau déjà des parkings, que ce soit de Billy-Berclou, de côté Vingles et du côté, si je dis pas de bêtises...
Douvrin peut-être.
Douvrin, oui, ça vient de chercher. et après aussi autour de là, qui essaie d'aplanir un petit peu, remettre les places handicapées, et il y aura aussi l'achat de petits, ce que moi j'appelle des vélos, c'est ce qu'on peut mettre sur un fauteuil roulant, c'est une troisième roue, ce qui permet de lever les roues avant et d'aller se promener en toute sécurité, quand on ne fait pas le fou, avec un moyen électrique, donc qui est plus facile pour pouvoir se promener. Donc ça, c'est officiel, ça va être mis en place là, rapidement. Donc c'est une action, si sur le coup c'était à la base, on voulait faire juste une balade entre associations, on s'est retrouvé à faire un Adaptons Parc avec une belle organisation, mais le résultat est là, et ce qui nous donne envie donc de continuer. Donc on y aura un Adaptons Parc 2 donc le 20 juin prochain, où là on sera vraiment sur la base, donc c'est-à-dire au niveau du plan d'eau,
ouais.
Où normalement il y aura une scène musicale, il y aura un marché aux puces, il y aura un village, encore une fois comme le même concept que cette année, mais qui est déjà nettement plus gros parce qu'on a de la demande. Et puis on essaye aussi on voudrait avoir des activités sur le plan d'eau avec du paddle adapté, on peut mettre le fauteuil roulant dessus et faire profiter un petit peu. Donc il y a encore plein de projets, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On devrait aussi après par la suite faire des sentiers qui soient plus ou moins accessibles. Après ça sera pour tout type d'handicap.
Sensoriel,
tout ça, oui. Donc on a vraiment un gros projet. On a des gens qui sont vraiment motivés Et ça n'a pas de prix, parce que ça nous permet d'avancer à grands pas, ou à grands coups de roue, ça dépend.
L'ampleur de la mobilisation vous a surpris ?
Ben, au début, je pense qu'on ne nous a pas spécialement pris au sérieux. Et c'est ce que Marc me disait la dernière fois à l'Assemblée générale de l'association. Au début, en fait, on ne nous a pas spécialement pris au sérieux. Ils ont dit, bah, c'est un truc qui va... Ça... Et puis au bout du compte, ben, grâce à vous, vous nous avez reçus, vous avez soutenus. Après, on a vu TD Goël, on a vu La Voix du Nord. Et puis ben, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On a quand même 13 associations et entreprises qui sont venues. D'autres associations de Billy Berclos qui nous ont aidés aussi pour les jouelettes, faire les tours. Oui, c'est une belle surprise. Et je me dis que, bah, qu'en fait, il y a quand même des gens qui sont à l'écoute, qui arrivent à sortir de leur. À ouvrir un peu leur champ de vision et leur esprit. Oui. Donc, ça, c'est important. Et puis, comme je vous disais, tout. Quand en plus on peut être relayé par des médias qui arrivent à nous suivre, ça aide beaucoup, l'air de rien. Ça aide beaucoup.
Et c'est un vrai plus, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas forcément compte à l'écoute comme ça, de pouvoir avoir accès à ce lieu de loisir quand on est une personne en situation de handicap.
Bah oui, ça permet de sortir, d'être un peu dans la nature. Parce que le problème du handicap, des fois, c'est qu'on peut rester enfermé un peu, peut-être un peu trop chez soi, dans ses quatre murs. Et qu'on sorte pas, et puis quand c'est pas adapté, c'est compliqué. Et quand on a un parc là à côté, comme celui-là, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et quand c'est pas accessible, c'est un petit peu.
Parce qu'on se pose toujours la question de savoir si le lieu où on souhaite aller est accessible, s'il y a des toilettes accessibles, etc., etc.
Voilà. Bah oui, c'est tout. Bah oui, c'est tout un. Tout se met en place dans la tête. Bah non, je peux pas y aller. Bon, après, des fois, si on se pose pas assez la question, on y va quand même. Mais, des fois, il faut arrêter de se poser des questions. Ce qu'on appelle aussi l'ouverture d'esprit, pour nous aussi, je pense qu'il faut l'avoir.
L'accessibilité est un vrai enjeu, toujours d'actualité, malgré cette loi de 2005 qui peine à être appliquée correctement comme elle devrait l'être, avec l'ensemble des adaptations qui devraient être faites. Et au-delà de la capacité à pouvoir accéder à des bâtiments spécifiques qui permettent d'accueillir du public, il y a aussi toute la question du civisme. Et on en parlait d'ailleurs en préparant cette émission. Les places réservées aux personnes en situation de handicap devant les centres commerciaux, devant les bâtiments publics, c'est encore et toujours un sacré problème qu'on n'arrive pas à régler malgré les amendes, malgré la sensibilisation qui peut être faite. Alors, quelle est l'ampleur du problème aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire, à part encore et toujours sanctionner ?
Après, ce qu'on avait fait un peu avec l'association au mois d'avril, le 20 avril, où on avait fait un défi à la population, on avait mis des gens dans les fauteuils roulants, ils avaient été faire leurs courses dans le magasin à côté de chez nous, donc ils ont pu déjà appréhender la difficulté. Après, ils ont emprunté les trottoirs pour aller jusqu'en mairie, ils se sont rendus compte que les trottoirs, ça penchait, il y avait des trous, il y avait des voitures mal garées. Et ça avait fini par un entretien d'embauche, justement, on avait pris des gens au hasard. Donc je pense, en passant par la sensibilisation, à un moment, c'est bien. Mais on avait aussi mis des faux PV sur les voitures mal stationnées, avec un petit mot d'humour derrière. Alors la sensibilisation a ses limites, je pense. À un moment, il faut... je pense que oui, la sanction, il faut qu'elle tombe. Tant que les gens... De toute façon, tant qu'on ne touche pas au porte-monnaie, les gens... continue à se regarder le nombril, ils s'en foutent un petit peu. Ils disent c'est pas parce que quelqu'un passe avec un fauteuil, il y a qu'à aller sur la route. Bon, normalement, quand c'est la définition d'un trottoir, c'est pour les piétons, la chaussée, logiquement, c'est pour les voitures. C'est pas l'inverse, sinon on peut inverser les rôles. Hein. Les voitures roulent sur les trottoirs et nous, on ira sur la chaussée, au moins on aura plus de place. Mais je pense que oui, il faut. Les solutions, on n'a pas beaucoup de la sensibilisation, apparemment. Ça marchait un moment, moi, je continue à mettre des petits PV, mais. Après, oui, la sanction. Après, c'est peut-être bête à dire, mais la sanction, je pense que. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle devrait même être plus forte par moment, parce que les journées pour 5 minutes, je dépose, je reviens, je mets mes feux de détresse. Prends mon handicap. J'en ai pour la vie. Mais ça serait l'idéal, ce serait faire un vie ma vie. Mais après, c'est souvent les gens qui respectent pas ces choses-là, ils souffrent d'autres choses. Ça revient.
On en revient
à la connerie.
À la connerie.
À la connerie.
Je ne sais pas le dire. On parle rarement de l'accessibilité au niveau de l'autisme. Pourtant, il y a des initiatives qui sont intéressantes, comme par exemple des séances de cinéma avec adaptées ou des magasins qui proposent des heures calmes pour justement accueillir des autistes. Qu'est-ce que vous en pensez justement de toutes ces initiatives ?
En ce qui concerne les cinémas et puis aussi d'autres loisirs, on a nos amis de Réseau Bulle qui font ça très bien, hein, en ce qui concerne, donc, puisque vous parlez des cinémas, mais pas que, voilà, ils sont vraiment spécialistes en la matière.
Et c'est formidable, bien sûr.
Et vous pensez que justement ce genre d'initiative devrait se généraliser
Alors, se généraliser... Alors, vous voyez, il faut déjà voir si ça marche. Moi, sur le cinéma avec Réseau Bulle, je suis convaincue que ça marche très, très bien. Le temps calme quand on doit faire des courses, je suis pas certaine. Noé, on parlait de mon exemple, la foule, les autistes, ils ont en fait c'est une espèce d'hypersensibilité sensorielle. Le bruit, ils entendent tout ce que nous, on n'entend pas. Quand vous êtes en train de faire vos courses, vous pensez à votre liste. Lui, il entend le bruit des frigos.
Alors là, c'est précisé. Hein, les escalators arrêtés, pas de personnel à remplir les étagères, etc. etc.
Donc, voilà. Mais les bipoquettes, il va les entendre. Les gens parler, il les entend quand même. Et il arrive à un moment, le bruit, toute sa vie, il y aura, comment dire, du bruit. Alors, pour certains enfants dont les parents n'ont plus la possibilité de sortir parce qu'ils sont complètement isolés, ça peut être une solution pour pouvoir effectivement, eux, leur permettre de pouvoir aller faire leurs courses sereinement. Parce que on va se l'avouer, hein, quand vous avez un enfant autiste, c'est souvent des enfants dont on a peur, parce que l'inconnu fait peur et puis ils font des choses tout à fait malaisantes. Donc c'est vrai que ça peut mettre les gens, si on se pose des questions. On ne se bouscule pas forcément à notre porte non plus pour les garder, en règle générale, dans les familles. Hein. Soit parce que les parents, ils ont des difficultés à les confier par manque de confiance, parce qu'on sait toute la conséquence, en fait, toute la charge que ça représente pour un parent. Soit parce qu'effectivement, ils sont tout à fait isolés, ils sont seuls. Si effectivement, il y a des gens qui répondent à ça et ça leur apporte quelque chose, c'est formidable.
Ceci dit, c'est quand même une bonne initiative.
Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Nous, on a pris le parti avec Noé. Les courses étaient tellement insupportables qu'on les a faites quotidiennement. Nous, on lui a mis l'insupportable tous les jours pour le rendre supportable. C'est un choix. Mais aujourd'hui, on fréquente deux, trois enseignes dans lesquelles il a l'habitude d'y aller. Après, un centre commercial comme celui qui a Noyelle-Godot en plein mois de décembre à 5 jours de Noël, non, on va pas lui faire faire. Déjà, moi, je suis pas bien là-bas.
Pour nous, vous savez,
alors, hein. Déjà, moi, je suis pas bien. Alors, imaginez lui. Non, c'est juste impossible. C'est de la pure torture. Après, il faut s'adapter. C'est du cas par cas. Noé, on a décidé de lui apprendre. Donc, finalement, on l'a emmené jusqu'à ce qu'il s'habitue. Mais après, on a aussi fait l'erreur de l'emmener que dans quelques enseignes. C'est vrai que si on change de magasin demain, il risque d'être perturbé, en fait.
Ou alors, il faut surtout supplier l'enseigne de ne pas changer non plus.
Et surtout pas fermer, voilà.
Mais c'est vrai, mais on n'y pense pas.
Mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, après, en tant que parent, on fait des choses folles pour ses enfants. Les courses quotidiennes, c'est quand même fou. Hein. Enfin, moi, c'est pas ma passion. Hein. Mais pour leur apprendre... Voilà. Mais non, c'est une bonne initiative. Si les gens adhèrent, ça peut être très bien.
Julien.
Oui, alors pour terminer tranquillement cette émission, puisqu'on approche déjà de la fin, on va terminer bien sûr en continuant de parler de notes positives, de rendez-vous peut-être aussi organisés par vos différentes associations pour vous faire connaître, pour soulever des fonds peut-être pour certaines d'entre elles. On va d'abord peut-être reprendre et revenir sur ce rendez-vous du 11 novembre, Dominique Charlet, avec l'association Autonomie.
Alors là, oui, donc le 11 novembre, donc c'est un loto qui est organisé par Autonomie, donc à l'espace Mitterrand à Billy-Berclos, avec l'ouverture des portes à partir de 12h et le lancement des jeux à partir de 14h30.
Donc voilà. pour récolter des fonds aussi pour cette association qui va aider Tom, un collégien de Billy-Berclos, à acquérir un terra-trainer qui va l'aider dans le développement de son autonomie. Patrice Hasbrouck, des prochains rendez-vous pour l'association Inno Agathe ?
Nous, ça sera beaucoup plus tard, ça sera au mois d'avril, le deuxième dimanche du mois d'avril, aussi un loto organisé à Billy-Berclos. Le loto est très lucratif pour les associations. Après, j'invite aussi les auditeurs à rejoindre la page de l'association. On a pas mal de coureurs qui, ce week-end encore, de jeunes enfants, s'ils m'écoutent, ils vont être bien en colère. Un enfant de 17 ans, une fille de 13 ans, donc qui portent les couleurs de l'association et ont décidé de faire du sport en portant les couleurs d'Agathe. Et puis, ça nous permet à nous de lui parler de certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, des coureurs qui vont un peu partout. Et on a vu des gens qui ont fait des courses à l'île de la Réunion, donc c'est un t-shirt à l'effigie de l'association et puis ça permet de parler d'Agathe, de son combat et de faire voyager Agathe à travers ses courses.
Dany, les projets ?
Alors, déjà moi je voudrais quand même dire que l'association accueille les familles au centre d'éducation populaire donc de Méricourt tous les lundis après-midi de 14h15 à 16h30. Ou sur rendez-vous, hein. Donc ça permet quand même de les accueillir dans un super centre social d'éducation populaire. Et je remercie vraiment la municipalité parce que ça, c'est très très important pour moi de leur dire qu'on les remercie. Ils sont tellement impliqués que, enfin voilà, d'autres hein, aussi, mais voilà. Et puis, malgré tous nos efforts au niveau des ESS. À maintenir ces enfants en milieu ordinaire, hein, parce que c'est quand même le but principal de l'association, hein, c'est le milieu ordinaire. On a encore des enfants sans solution, c'est-à-dire des enfants à la maison, voilà, qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas en structure, qui sont à la maison. Donc on est, nous, sur là, un projet donc, d'ouverture, mais on en reparlera, on viendra vous voir une nouvelle fois pour en parler. Donc d'ouverture de lieux d'accueil hein, sur donc ici dans le bassin minier pour comparer ben par exemple on pourrait citer Cœur Bleu hein, nos amis de Roubaix donc qui ont ouvert déjà ou les PAM par exemple de Touquet voilà où on va accueillir les enfants qui sont sans solution mais bon c'est imminent mais on viendra en reparler
au mois de décembre a priori hein.
Je n'ai pas de date. Donc je préfère ne pas m'avancer, hein, parce que bon, je sais que les familles vont. Mais bon, c'est voilà, c'est
en projet en tous
dans
les
cas. Dans la dernière ligne droite.
Dominique Charlet pour l'association À Notre Regard, des projets. Adapte ton parc 2, ça ce sera l'été prochain. J'imagine qu'il y a d'autres rendez-vous avant.
Il y en a quelques-uns, oui. dont la semaine prochaine, ce samedi, avec un projet, c'est pas nous qui l'organisons, hein, c'est un événement, ça s'appelle Night for Diversity, excusez-moi l'anglais, où ça montre toutes les différences. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des femmes rondes, il y aura des femmes fines, des autistes, des personnes en fauteuil roulant, handicap, de couleur, où les gens vont défiler sur différentes scènes. Donc c'est avec les Miss Rondissima 2019, donc on a la chance d'y participer. Après, nous, on
donc sera... Donc ça se déroule
le 9 novembre, donc samedi à Luin. Donc vous pouvez aller sur leur page, hein, directement sur leur page Facebook. Après, au niveau de nous, de l'association Purement, on a notre loto le 5 janvier. On fait aussi une Zumba Party le 3 janvier, donc avec Edon Agathe Autonomie. Oui. Avec Miss Rondissima 2020 qui est de Billy Berclos, donc qui nous propose ça. Et après, on va refaire sûrement un flash mob au printemps sur Arras. Donc on a plein de projets à venir.
Ah, on dit on viendra, c'est bien, voilà, effectivement il faut se mobiliser, puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les associations invitées sur notre site internet radioplus.fr où vous pourrez retrouver le podcast de cette émission. C'est la fin d'ailleurs de ce numéro de l'émission Le Handicap aujourd'hui qui avait pour thématique travail, éducation, financement, trajet, des obstacles au quotidien. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à nos invités Dominique Charlet, président de l'association À Notre Regard à Billy-Berclos, Dany Gendru, intervenante psycho-éducative et président de l'association Azur basée à Méricourt, accompagnée également de Émilie Glabien, membre de l'association Azur et maman du petit Noé, âgé de 6 ans atteint d'autisme. Patrice Hasbrouck était également notre invité, vice-président de l'association Edon Agathe et papa d'Agathe atteinte d'une anomalie chromosomique. Et puis on excuse aussi Jacqueline Peter de l'association Soliande qui aurait dû être avec nous, tout comme Marc Tartar, adjoint sport de la ville de Billy-Berclos et les représentants de l'association Autonomie. À la réalisation de cette émission, c'était Jean-Philippe Planck. Et remerciements également à Lucie Leclerc et Wefa Binazon qui nous ont aidés à préparer ce rendez-vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Le Handicap aujourd'hui.